Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Google doit passer à la caisse. La Commission européenne estime que le géant abuse de la position dominante de son système d'exploitation pour smartphone Android. Elle lui inflige une amende de 4,34 milliards d'euros. Catherine Pétillon nous détaillera la décision. La PMA, source de tensions au sein de La République En Marche. Un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Mais le député LREM Guillaume Chiche s'impatiente. Il a annoncé qu'il pourrait déposer dès demain une proposition de loi sur le sujet. Au Nicaragua, la ville rebelle de Masaya est désormais sous contrôle du pouvoir, alors que le pays s'apprête à fêter le 39e anniversaire de la révolution sandiniste. Que reste-t-il justement de cette révolution? Nous poserons la question à Maya Colombon, enseignante et chercheuse à Sciences Po Lyon. C'est une amende record que l'Union européenne inflige à Google aujourd'hui, 4,34 milliards d'euros. La Commission reproche au géant un abus de position dominante. Avec son système d'exploitation mobile Android, Google, affirme l'UE, assoit la suprématie de son service de recherche en ligne. Alors que dit précisément cette décision d'aujourd'hui de la Commission? Explication avec Catherine Pétillon.
Cette décision dit trois choses. D'abord, que Google abuse de sa position dominante. D'un point de vue juridique, c'est important, car cela pourrait servir de fondement pour attaquer Google. Ensuite, elle donne à l'entreprise 90 jours pour changer ses pratiques, sous peine d'astreinte à payer. Enfin, elle dit que Google doit s'acquitter d'une amende au montant inédit. 4,34 milliards d'euros, c'est presque deux fois plus que sa première amende pour abus de position dominante en 2017. Cela concernait alors son comparateur de prix Google Shopping. Cette fois encore, l'amende a été déterminée par la Commission à la mesure de l'importance du marché concerné et des enjeux économiques. Google a une position dominante. 80% des téléphones fabriqués sont équipés de son système d'exploitation Android. Ce que la Commission européenne lui reproche, c'est d'abuser de cette position pour se ménager la part du lion dans le secteur de la recherche sur Internet en général, notamment en incitant les fabricants à installer par défaut l'outil Google Search. Or, c'est un produit phare avec lequel Google génère chaque année plus de 95 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités vues par ses utilisateurs. Pour la commissaire européenne à la concurrence, Margrét Vestager, cela entrave surtout le développement d'applications concurrentes. Aujourd'hui, la décision de la Commission à rejeter le modèle économique qui fait vivre Android a réagi de son côté le PDG de Google, estimant qu'Android avait créé plus de choix pour les utilisateurs et pas moins. Ce que réfute l'entreprise, ce ne sont pas les pratiques commerciales mises en avant par la Commission, mais leur impact sur l'environnement concurrentiel, et c'est avec ces arguments qu'elle va faire appel. En attendant, Google a néanmoins l'obligation de mettre en œuvre la décision européenne dans les tout prochains jours.
Et c'est d'ailleurs exactement ce que confirme la porte-parole de Google France aujourd'hui. Nous allons nous conformer à la décision de la Commission tout en faisant appel, dit-elle. L'impatience à La République En Marche au sujet de la PMA. Plusieurs députés veulent accélérer le mouvement sur ce sujet. Alors on rappelle qu'il s'agit d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il s'est engagé à ouvrir la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. Le député Guillaume Chiche doit déposer demain une proposition de loi en ce sens, il l'avait annoncé au journal du dimanche, mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, met d'ores et déjà le holà. Un projet de loi, dit-il, sera présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année pour un examen au début du premier trimestre de l'année prochaine. Fin de citation. Pour Gilles Legendre, député LREM de Paris et porte-parole du groupe à l'Assemblée, l'idée c'est de ne pas aller trop vite sur un sujet aussi sensible, on l'écoute.
Les choses sont très claires. La PMA est un engagement que le président de la République d'abord et notre majorité ensuite ont porté pendant les deux campagnes électorales. Donc la PMA sera faite en France. Maintenant, cela fait partie des sujets qui ne s'accommodent en aucun cas ni de l'improvisation, ni de la précipitation, ni de l'excès de passion, ni de la controverse. C'est exactement le contraire. C'est un sujet qui nécessite du travail, du temps, qui nécessite du débat. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui a entamé cette démarche exactement dans cet esprit-là. La ministre de Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, travaille sur ce texte depuis plusieurs mois. Nous nous insérons d'ailleurs dans un processus qui a été ouvert par des avis du Comité consultatif national d'éthique. Donc tout ça est mené avec le plus grand soin. Donc le moment venu, probablement à la fin de l'année 2018 ou dans le courant de l'année 2019, nous y verrons plus clair. Ce qui importe, c'est que le projet soit travaillé avec le plus grand soin.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Le soir du 13 novembre 2015, il n'y a pas eu de manquement grave de l'État ou des services de renseignement. Décision aujourd'hui du tribunal administratif de Paris. Il avait été saisi le 4 juillet. Une trentaine de rescapés et de familles de victimes des attentats avaient attaqué l'État et demandé des indemnisations. Et la justice française estime donc aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de faute lourde quant au suivi des terroristes à l'origine des attaques. À noter que les familles ont également porté plainte au pénal le 8 juin dernier contre X pour non-assistance à personne en péril pour la non-intervention des soldats de l'opération Sentinelle. Dans l'actualité internationale, au Nicaragua, le quartier rebelle de Monimbo dans la ville de Masaya est sous contrôle désormais des forces gouvernementales. Le président Ortega va fêter demain le 39e anniversaire de la révolution sandiniste. Des célébrations vont avoir lieu à Managua, la capitale, mais cette année, cet anniversaire aura un goût amer pour la majorité des habitants du pays qui dénoncent une confiscation du pouvoir par Daniel Ortega, l'ancien leader de la révolution sandiniste. Alors 39 ans après, que reste-t-il justement de cette révolution? C'est la question que nous avons posée à Maya Colombon, enseignante et chercheuse à Sciences Po Lyon.
Le nom, à part ça, pas grand-chose. En 11 ans, 12 ans bientôt de reprise du pouvoir, Daniel Ortega a pratiquement défait presque toutes les différents aspects et dimensions de ce qu'était la révolution sandiniste. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien de ce que signifiait la révolution sandiniste au Nicaragua pour les Nicaraguayens. Une des dernières choses qui faisait référence directement à la révolution sandiniste, c'était les programmes sociaux. Des programmes sociaux qui ont été assez importants dans le premier mandat du retour au pouvoir, donc à partir de 2007. Ils étaient importants parce qu'ils étaient financés par les pétrodollars d'Hugo Chávez, c'est le régime distribué de l'argent, des toiles de zinc pour les toits, des programmes alimentaires, enfin différents types de programmes sociaux. Sinon, d'un point de vue économique, le Nicaragua a fait des réformes macroéconomiques qui sont tout à fait dans la continuité de ce qu'étaient les régimes libéraux qui l'ont précédé, avec surtout, et la chose la plus importante et grave, l'enrichissement de la famille présidentielle et de quelques-uns des groupes alliés, donc des fortunes gigantesques qui se créent en l'espace de quelques années. Si vous voulez, en l'espace de 11 ans, le régime Ortega s'est attaché à contrôler la majeure partie des ressources de l'État, qu'elles soient financières, politiques, social.
Des propos recueillis par Valérie Krova. Cette nuit, la Turquie va lever l'état d'urgence. Le régime d'exception avait été mis en place il y a 2 ans, quelques jours après la tentative de coup d'état dans le pays. Il a permis au gouvernement de procéder à des purges massives. L'opposition turque redoute désormais un projet de loi antiterroriste qui contient des mesures directement inspirées de l'état d'urgence et qui pourrait donc être transféré dans le droit national turc. Les autorités locales, si le projet est adopté, pourraient ainsi restreindre l'accès à certaines zones et la garde à vue pourrait durer jusqu'à 12 jours. La lutte contre le sida est efficace, mais elle est néanmoins en danger. Voici en substance ce que l'on peut lire dans le rapport 2018 de l'ONU-SIDA, dévoilé aujourd'hui à Paris. Le programme commun des Nations Unies sur le VIH redoute une baisse importante de ses financements pour les 2 années à venir. Précision de Benjamin Mathieu.
On n'a jamais connu de chiffres aussi encourageants depuis l'apparition du virus. 22 millions de personnes sont actuellement sous traitement, soit 60% du total des personnes infectées dans le monde. En conséquence, la mortalité n'a jamais été aussi faible depuis les années 90, moins d'1 million de morts l'année dernière, quand ce chiffre dépassait les 2 millions au moment du pic de l'épidémie en 2005. Des succès incontestables, mais qui pourraient rapidement être remis en cause si les financements ne suivent pas. Il manque actuellement 7 milliards d'euros par an au programme pour permettre de stabiliser ces chiffres. Si cette baisse n'est pas compensée, 44 pays parmi les plus pauvres de la planète vont se retrouver dans l'impossibilité de soigner leurs malades, avec un risque important de rebond de l'épidémie qui reste dans certaines parties du globe encore totalement incontrôlée. C'est le cas du Nigeria et plus globalement de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi en Russie, 3e pays au monde où les nouvelles infections sont les plus nombreuses.
Benjamin Mathieu. Demain, il fait globalement beau sur une grande partie du pays, mais des averses possiblement orageuses sont à prévoir sur la façade ouest. Les températures de la matinée seront comprises entre 19 et 29.